VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 24 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les élections générales d'hier au Botswana, en jeu le règne sans partage du parti au pouvoir depuis des décennies.
La France renforce ses liens avec le Cameroun suite à une rencontre à Yaoundé entre le président Paul Biya et Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française.
Côte d'Ivoire, report au 30 octobre d'une procédure contre l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, acquitté récemment en première instance par la CPI.
À Sotchi, le président russe Vladimir Poutine annonce ses ambitions pour l'Afrique au premier jour du premier sommet Russie-Afrique.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier la levée des sanctions imposées mi-octobre contre Ankara.
En Israël, le président Reuven Rivlin a demandé à Benny Gantz de former un gouvernement après l'échec du premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les Botswanais se sont rendus aux urnes hier pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de leur histoire. Le règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance est menacé, Yacouba Ouédraogo.
Plus de 930 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a commencé hier dès la fermeture de quelques 2 200 bureaux de vote. Certains électeurs ont continué de faire la queue dans la soirée pour pouvoir voter. Selon le porte-parole de la commission électorale, Ozupile Maroba, cela pourrait entraîner des retards dans le comptage des voix. Ce pays d'Afrique australe est agité par une guerre fratricide entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur, Ian Kama, qui a dirigé le pays de 2008 à 2018, accuse son successeur, Mogwetsi Masisi, de dérive autoritaire. Kama a quitté le Parti démocratique du Botswana, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1966. Kama a appelé à voter pour l'opposition et cette fronde fragilise la position du parti au pouvoir, qui avait réalisé son plus mauvais score aux élections de 2014 en tombant sous la barre des 50% des voix.
Et au Mozambique, c'est le 30 octobre que seront annoncés les résultats complets des élections générales selon la commission électorale. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Paulo Quinica, porte-parole de la Commission électorale nationale, a annoncé que les résultats seront publiés le 30 de ce mois. Après le vote du 15 octobre, pour élire le président, les députés et les assemblées provinciales, des missions d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités. La RENAMO, principal parti d'opposition, accuse le régime de méga-fraude et rejette d'avance les résultats. La Commission électorale a publié sur son site des résultats partiels. Philippe Nyusi serait réélu avec plus de 70% des voix, loin devant son rival Ossoufou Momad, crédité autour de 21%. Le Frelimo décrochait 179 sur les 250 sièges du Parlement, contre 62 à la RENAMO et 8 au Mouvement démocratique du Mozambique. Le gouvernement et la RENAMO ex-rébellion ont signé en août un accord de paix censé mettre fin à leurs affrontements récurrents depuis plus de 40 ans. La campagne électorale a ravivé les tensions entre les deux camps.
Le ministre français des Affaires étrangères a salué hier la réconciliation en marche au Cameroun. Jean-Yves Le Drian a également annoncé un renforcement des liens traditionnels entre Paris et Yaoundé après les gestes d'apaisement du président Paul Biya dans la crise des régions anglophones et la libération de Maurice Kamto, son principal opposant. À l'issue d'un entretien avec M. Biya à Yaoundé, le chef de la diplomatie française s'est félicité des efforts de paix entrepris, proposant un accompagnement de la France dans ce processus.
En Côte d'Ivoire, la justice a décidé hier de reporter au 30 octobre une décision sur une procédure dans le pays même contre l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, à propos de crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre, acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la CPI. M. Blé Goudé est actuellement en liberté conditionnelle aux Pays-Bas, en attendant l'examen de l'appel de la procureure par la CPI.
Dans le sud-est du Niger, le maire de Kabalewa, une commune de la région de Difa, et son épouse ont été enlevés le 19 octobre par des éléments de Boko Haram. Le point avec Eric Manirakidza.
Selon un élu local qui a voulu garder l'anonymat, le maire Abari El-Hadj Daouda et son épouse ont été enlevés dans la nuit du 19 octobre par des éléments de Boko Haram qui ont fait irruption dans leur domicile. Le gouvernorat de Diffa a confirmé ces enlèvements et a souligné que les ravisseurs sont des présumés membres de Boko Haram. La région de Diffa, proche du Nigeria, est le théâtre depuis 2015 d'attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Selon les chiffres officiels, il y a eu entre janvier et août cette année 173 attaques qui ont fait 202 morts, 60 blessés et 239 personnes enlevées. En juillet 2017, 39 personnes, dont 33 femmes et 6 garçons, ont été enlevées en Galewa, un village situé à quelques kilomètres de la commune d'Okabalewa. En plus de l'insécurité, Diffa est confronté à de graves inondations provoquées par une crue de la rivière Komadougou-Yobé qui sert de frontière avec le Nigeria.
En Russie, le président Vladimir Poutine a promis hier de doubler dans les 5 ans les échanges commerciaux avec l'Afrique, même si peu d'annonces concrètes ont ponctué à Sotchi la première journée de l'édition inaugurale du sommet Russie-Afrique. Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, M. Poutine a annoncé son intention de reprendre pied sur un continent dont la Russie s'est retirée à la chute de l'ex-Union soviétique et où la Chine et les pays occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier la levée des sanctions imposées à la mi-octobre contre la Turquie. C'était après le lancement de l'offensive militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. Le point avec Abdourahman Dia.
J'ai demandé au secrétaire au Trésor de lever toutes les sanctions imposées le 14 octobre en réponse à l'offensive de la Turquie, a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche. Le président américain a par ailleurs laissé entendre que sa rencontre prévue le 13 novembre à la Maison-Blanche avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan aurait bien lieu comme prévu. « Nous pourrions le rencontrer très prochainement », a-t-il déclaré, présentant sa stratégie sur la Syrie comme un succès. Un nombre incalculable de vies ont été sauvées grâce à notre négociation avec la Turquie, a-t-il martelé. L'offensive turque avait été lancée à la suite de l'annonce du retrait militaire des États-Unis du nord-est syrien, une décision dénoncée par de nombreux élus comme un abandon des Kurdes alliés de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Le président américain a par ailleurs affirmé qu'un petit nombre de soldats américains resteraient en Syrie dans les zones où il y a du pétrole.
Les démocrates qui enquêtent sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Trump ont à nouveau sommé hier le département d'État de leur livrer des documents. Ces mails, textos, câbles diplomatiques et autres portent sur les efforts de M. Trump visant, dit-on, à faire pression sur l'Ukraine pour ouvrir des investigations susceptibles d'aider le président américain à satisfaire des intérêts personnels et politiques plutôt que ceux de la nation, à savoir lier une aide de quelque 400 millions de dollars à l'Ukraine à une enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden, un possible rival démocrate en 2020, et son fils Hunter, qui fut au conseil d'administration d'une entreprise ukrainienne.
Le président israélien Reuven Rivlin a confié hier soir à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz la mission de former un gouvernement pour sortir le pays de la plus longue impasse politique de son histoire, Jacques Aristide.
Pour le chef de l'État israélien, les partis politiques doivent faire des concessions, tandis que Benny Gantz a promis de tenter de former ce qu'il appelle un gouvernement d'union libérale. Après les élections anticipées du 17 septembre dernier, le premier ministre Benjamin Netanyahou a tenté de rassembler une coalition, mais a finalement jeté l'éponge lundi dernier. Benny Gantz aura 28 jours lui aussi pour tenter de relever le défi, faute de quoi le président Rivlin demandera au Parlement de désigner un candidat pour former le gouvernement. Et en cas d'échec, Israël devrait convoquer de nouvelles élections qui seraient les troisièmes en moins d'un an. L'ancien chef de l'armée Gantz assure qu'il y a de la place pour tous les éléments de la société israélienne dans sa coalition. Les négociateurs de son parti bleu-blanc et ceux du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, ont prévu de se rencontrer aujourd'hui.
Fin de ce journal sur VOA Afrique.
Minute Éco, Nanit Talani.
Les États-Unis ont annulé 190 millions de dollars de subventions au Ghana en réponse à la résiliation d'un contrat avec un fournisseur d'électricité privée. L'une des réformes prévues par l'accord consistait à céder les activités de la Société publique d'électricité ghanéenne à Ghana PDS, un consortium dirigé par la Société d'électricité philippine Meralco. Mais le Ghana vient d'annuler la concession de 20 ans qu'il avait signée avec PDS, affirmant que les garanties de paiement fournies n'étaient pas satisfaisantes. La Cominac, filiale nigérienne du géant nucléaire français Orano, annonce l'arrêt de sa production d'uranium du site d'Akuta en mars 2021 en raison de l'épuisement des réserves. Malgré la mise en œuvre des plans d'économie, la Cominac est déficitaire à cause des coûts d'exploitation très élevés et une forte baisse des prix de l'uranium. Le prix spot de l'uranium tourne autour de 53 et 55 €, alors que les coûts de production de la Cominac se situent entre 74 et 76 €. Pour terminer, la Russie a signé des accords avec le Soudan du Sud, le Rwanda et la Guinée équatoriale pour faire de la prospection de matières premières et développer une stratégie afin de parer à son déficit de ressources minérales. Au Rwanda, elle créera un laboratoire d'exploration pour chercher des hydrocarbures dans le lac Kivu.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Grogne chez les Éthiopiens et les Kenyans après le retrait du 5000 mètres de la Ligue de Diamants.
Oui, pas de 5000 mètres. La saison prochaine au programme de la Ligue de Diamants, c'est la décision prise par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme dans le cadre de ses réformes. Cette décision n'est pas du tout du goût de l'Éthiopie et du Kenya, pays friands de cette distance. Ils commettent une erreur importante et c'est surtout dommageable pour nous les Éthiopiens, a déclaré l'athlète Telahun Bekele. Le retrait du 5000 mètres n'est pas le seul changement qui va intervenir en 2020 au programme des meetings de la Ligue de Diamants. Les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 mètres ne seront plus au programme.
Troisième journée de l'Europa League ce soir.
Arsenal et Séville tenteront de prolonger leur impeccable série, respectivement contre Guimarães et Dudelange. Les Gunners ont marqué 7 buts en 2 matchs cette saison sans en encaisser un seul et s'approchent doucement d'une qualification pour le tableau final. Le FC Séville, triple vainqueur de l'épreuve entre 2014 et 2016, a aussi mis son rouleau compresseur en route avec 2 succès inauguraux contre l'APOEL Nicosie et à Karabakh. Moins souverain, 4 points en 2 matchs et un seul but marqué. Manchester United se déplace à Belgrade pour affronter le Partizan. Enfin, l'opposition entre le Celtic et la Lazio Rome va permettre de jauger le niveau des Écossais en tête du groupe E après 2 journées.
Le Classico Barça-Real reporté au 18 décembre.
La Fédération espagnole de football a annoncé avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date du Classico FC Barcelone-Real Madrid, initialement prévue samedi mais reportée en raison des manifestations en Catalogne. La décision a été prise après avoir analysé ces derniers jours les propositions des deux clubs qui ont tous deux proposé cette date, a expliqué la fédération. La Liga avait dans un premier temps proposé de faire jouer la rencontre à Madrid et d'organiser le match retour à Barcelone en mars, mais les deux clubs ont refusé. Le Classico Barça-Real réunit environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition, selon les chiffres de la Ligue.
Toujours en Espagne, les joueuses professionnelles iront bientôt en grève.
Près de 200 footballeuses professionnelles espagnoles ont voté à plus de 93% pour une grève illimitée, dont la date n'a pas encore été fixée. Les négociations menées depuis plus d'un an entre les syndicats des joueuses et les clubs de football achoppent sur la question de leur rémunération. Elles demandent à être traitées comme leurs homologues masculins et payées au moins 12 000 euros par an, quand les clubs leur proposent des contrats à temps partiel payés au moins 8 000 euros annuels. Le football féminin est en pleine croissance en Espagne. En mars dernier, la fédération a annoncé la création d'un nouveau championnat professionnel féminin qualificatif pour les compétitions européennes.
Les résultats de la NBA hier soir, Sacramento battu par Phoenix 124 à 95, défaite de Portland face à Denver 108 à 100, Chicago battu par Charlotte 126 à 125, Détroit l'emporte sur Indiana 119 à 110, Cleveland battu par Orlando 94 à 85, Minnesota de justesse sur Brooklyn 127 à 126, Memphis écrasé par Miami 120 à 101, Philadelphie de Joel Embiid l'emporte sur Boston 107 à 93, Washington succombe à Dallas 108 à 100, l'autre équipe équipes du Texas, San Antonio, a eu raison de New York, 120 à 111, et Oklahoma City a été battue par Utah, 100 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président russe Vladimir Poutine a lancé hier son premier grand sommet Russie-Afrique, promettant à des dizaines de dirigeants africains de doubler dans les 5 ans les échanges commerciaux avec leur pays. Pour une analyse, Eric Manerakiza a joint à Dakar le président de l'Amicale des diplômés de l'ex-Union soviétique au Sénégal, Moustapha Ndiaye.
Je dirais que c'est un sommet qui est arrivé très tard, mais qui vient à son heure parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant par rapport à son développement économique, à certaines nouvelles orientations. Donc, je pense que la coopération entre la Russie et l'Afrique, c'est quelque chose de très important. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la Russie n'a jamais participé à la colonisation. La Russie n'a jamais participé à l'esclavage directement. Donc, ce qui fait que les relations sont beaucoup plus simples à mener. Il n'y a pas cette relation de condescendance que nos anciens colonisateurs ont par rapport à nous. Donc voilà pourquoi cette relation-là va être beaucoup plus équilibrée. Il y aura un échange beaucoup plus dynamique entre les deux parties que juste une partie qui impose à l'autre ce qu'il faut faire.
On sait que l'Afrique achète beaucoup plus des armes en Russie. En termes d'échanges commerciaux, qu'est-ce que la Russie peut apporter que d'autres puissances déjà sur le continent n'ont pas encore donné?
Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin d'avoir de la technologie à sa disposition. Et ça, on peut l'avoir de la Russie. L'ex-Union soviétique, les anciens pays du bloc, ont formé beaucoup d'experts africains qui tous servent leur pays aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, la coopération avec l'Occident se particulise par rapport à l'aide au développement, qui n'est pas une aide en soi, parce qu'on nous impose des orientations, on nous fixe des trucs, alors qu'aujourd'hui, les Africains ont besoin d'avoir de la technologie à leur disposition. Et on peut avoir les plus grandes technologies à disposition à partir de la Russie. Ça, c'est un point important. Côté formation, c'est pareil. Les étudiants africains peuvent recevoir des formations de très haut niveau. Si je prends l'exemple du pétrole et du gaz aujourd'hui au Sénégal, il y a des opportunités de profiter de l'expérience russe dans ce secteur. Dans le secteur agricole, les pays africains peuvent exporter beaucoup vers la Russie parce que c'est un pays où, avec l'hiver, il y a un moment où on ne produit pas. Donc, les gens ont besoin de légumes, de fruits frais. Et ça, les Africains peuvent l'exporter. Donc, je pense que la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie peut être quelque chose de très, très important. Il y aura quelque chose de très innovant dans la mesure où on n'a pas cette imposition, comme j'ai dit, de l'ancien colonisateur qui veut toujours imposer ses points de vue.
Faut-il se méfier de quelque chose dans cette relation?
Non, il n'y a absolument aucune crainte. Parce que comme je l'ai dit, quand aujourd'hui les gens déforment les idées en disant que oui, Vladimir Poutine a des idées expansionnistes, ce n'est pas du tout ça. Je pense que M. Poutine est arrivé à un moment où il fallait restaurer un peu la notoriété de la Russie, après Boris Yeltsin. Et je pense que les gens ne comprennent pas trop dans certaines idées qu'il veut véhiculer.
C'était le président de l'Amicale des diplômés de l'ex-Union soviétique au Sénégal, Moustapha Ndiaye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes, lutte antiterroriste. Le nouveau président de la Tunisie, Kais Saied, a annoncé ses priorités hier en prêtant serment devant le Parlement à Tunis avant de prendre ses fonctions. Pour faire le point sur les défis qui attendent le nouveau chef de l'État tunisien, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef de Dunes Voices.
Kais Saied a parlé d'instaurer un nouveau rapport entre gouvernants et gouvernés et d'essayer d'une manière concrète de réaliser les objectifs de la révolution. Pour lui, il est grand temps d'entendre et d'agir pour que ces promesses du peuple, ses vœux, ses souhaits de ce peuple en la dignité et en la liberté soient exaucés une fois qu'il est là à la tête de la République.
Justement, quels seront les premiers grands chantiers du nouveau chef de l'État?
Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le régime tunisien étant un régime parlementaire, Donc, le rôle du président de la République n'est pas vraiment très large. Il a précisément des prérogatives d'ordre diplomatique et sécuritaire. Il peut donner des recommandations en termes socio-économiques, mais ça s'arrête là.
Ennahda, vainqueur des législatives, veut un premier ministre issu de ce parti d'inspiration islamiste. Vous venez de parler de la marge de manœuvre du chef de l'État. Alors comment ça va se passer? Comment va-t-il composer avec Ennahda, le premier ministre qui va être nommé, et les autres partis au Parlement?
Je pense qu'il n'y aura aucun problème entre la présidence et les partis parlementaires. Le problème, c'est plutôt au niveau d'Ennahda. Ennahda n'a réuni que 52 sièges sur les 109 requis pour la majorité. Il y a 217 au Parlement, il faut 109 pour la majorité. Ennahda n'a que 52. C'est à Ennahda de travailler pour obtenir une majorité. Mais le président va composer avec le nom qu'on va lui présenter par Ennahda comme chef de gouvernement.
Il appelle les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme pour mettre fin, dit-il, à toutes ses racines et ses causes. La lutte antiterroriste, est-ce un défi que les Tunisiens veulent voir relever rapidement?
La liberté de la femme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté, oui, c'est des questions pour lui qui sont d'extrême importance. Oui, la lutte contre le terrorisme est parmi les défis majeurs en Tunisie. Nous avons progressé en ces termes. Le danger est toujours là, mais il n'est plus aussi pressant, il n'est plus dans la ville. Il reste encore quelques maquis dans certaines montagnes de l'ouest tunisien sur les frontières algériennes. Mais en général, la lutte, nous devons rester vigilants. La Tunisie doit rester vigilante contre le terrorisme. Le président l'a assuré et il a lui aussi, d'ailleurs ça a suscité des applaudissements dans la salle lorsqu'il a parlé de maintien du cap de cette lutte contre le terrorisme.
Mourad Selami, rédacteur en chef de Dunes Voices, joint dans la capitale tunisienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Liban, le soulèvement populaire a pris une nouvelle tournure avec l'apparition de l'armée autour de Beyrouth. La mobilisation pacifique s'est poursuivie pour le 7e jour consécutif malgré l'annonce de réformes par le Premier ministre Saad Hariri, dont la baisse de 50% des salaires des ministres et députés, malgré cette annonce. Pour des précisions sur la crise libanaise, Nathalie Barge a joint hier à Beyrouth la reporter Souniva Rose.
Aujourd'hui, l'armée a tenté pour la première fois depuis le début des manifestations jeudi à rouvrir les axes routiers bloqués par les protestateurs. Par exemple, si maintenant on veut faire le trajet de Beyrouth à Tripoli, un trajet qui prend normalement 1h30, ça prend 4h parce que les routes sont bloquées, les autoroutes sont bloquées. Les magasins n'ont plus de denrées alimentaires, il n'y a plus d'argent dans les banques, ça paralyse vraiment le pays. Alors l'armée a tenté de rouvrir ces axes. Dans certains endroits, ça a causé des blessés. Dans une banlieue au nord de Beyrouth, il y a eu entre 15 et 25 blessés selon les médias locaux. Dans certains autres endroits, il n'y a pas eu de problème, donc ça dépend vraiment. Et pour l'instant, les manifestants brandissent parfois à côté du drapeau libanais, un drapeau de l'armée, et disent qu'ils reçoivent le soutien un peu en off des soldats.
Que réclame exactement la population libanaise?
J'ai posé la question à beaucoup de manifestants. Alors d'abord, les revendications sont vraiment pêle-mêle. C'est des années de souffrance qui s'expriment. Les gens, par exemple, depuis la fin de l'année de la guerre en 1990, n'ont pas d'électricité 24 heures sur 24, il y a beaucoup de coupures d'eau, c'est un pays profondément inégalitaire, mais au fur et à mesure on a senti se cristalliser une demande pour des élections anticipées et le gouvernement démissionne complètement dans son entièreté. 3 ou 4 ministres ont démissionné il y a quelques jours, mais les autres ministres et le Premier ministre n'ont pas suivi, mais les manifestants quand on leur parle sont tous très très clairs, ils veulent que le gouvernement démissionne complètement, qu'il y ait des nouvelles élections et ils sont nombreux à demander un gouvernement gouvernement de technocrates qui n'auraient pas de lien avec les partis politiques traditionnels qui gouvernent le pays depuis 30 ans et qui pourraient vraiment mettre en place des réformes qui seront plus justes selon eux.
Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé des réformes lundi, notamment des baisses de salaire d'officiels haut placés. Pourquoi cela n'a-t-il pas permis aux manifestants de freiner un peu leur révolte?
Parce que vraiment, on sent que c'est du réchauffé. Beaucoup des propositions que M. Saad Hariri a annoncées lundi sont en fait des propositions qui flottent un peu depuis la formation du gouvernement fin janvier et qui sont des propositions qui parfois ont été incluses dans le budget, parfois non, qui ont été débattues il y a quelques mois quand les hommes politiques ici parlaient d'inclure cette baisse de 50% des salaires des présidents, anciens présidents, ministres, etc. Ça n'avait pas été retenu parce qu'en fait c'est une mesure très populiste et symbolique qui en fait ne va pas résoudre les problèmes financiers du pays. Le Liban est l'un des pays les plus endettés au monde derrière la Grèce et le Japon. Une des annonces de M. Hariri qui était que le budget prévoit un déficit de 0,6% en 2020. Les manifestants se sont moqués de cette annonce parce que comment ils comprennent pas comment d'un coup le budget va être réduit autant alors que le pays était aussi endetté. Enfin, ça semble irréaliste et populiste.
Jointe hier à Beyrouth, la reporter Souniva Rose.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République centrafricaine, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri à Bangui suite aux inondations après le débordement d'une rivière le week-end dernier. Les autorités locales craignent à présent une épidémie de choléra en raison du manque d'installations sanitaires à Arzuma Compaoré.
À Bangui, le district 6 n'est plus ce qu'il était. Ses habitants sont obligés de naviguer les eaux assez profondes pour se déplacer. Plus de 6000 personnes auraient perdu leur domicile des suites des inondations. Pulcheri, Siodegen, habite le quartier Kolongo.
Cela fait une semaine que nous souffrons. Nos maisons sont inondées. Nos enfants et nous-mêmes sommes très mal en point. Nous ne savons pas où aller.
Président, ministre,
c'est déplorable et nous voulons que le président vienne pour voir par lui-même.
Après que les digues de la rivière Ubangi aient éclaté la semaine dernière, les habitants de ce quartier de Bangui, habitués aux inondations saisonnières, ont vu leur situation empirer quelques jours plus tard avec de nouvelles précipitations. Kassa Moïse habite Mbanikola.
L'Ubangi s'est déplacé, le niveau ça rentrait dans le quartier, ça inondait tout le monde. Il y a des maisons écroulées que vous ne pouvez même pas arriver à voir là où les maisons sont écroulées parce que c'est au milieu de l'eau. Moi-même, je suis inondé, ma maison est dans l'eau.
Au-delà des dégâts matériels, c'est une autre menace qui plane désormais sur cette partie de la ville. Lucien Molombo est le chef de district de Kolongo.
Toutes ces personnes qui habitent ici, ils ont des landries. Mais ces landries là-bas ont été détruites. Hein? Les landries sont sorties du trou pour être dans l'eau. Donc moi, je pense que vraiment, on est intéressé surtout le ministère de la Santé qui prenne les dispositions déjà. Et pour les solutions. Mais maintenant, il faut sensibiliser donc nous autres qui habitons dans les environs.
Pour le député local To Sam Bensa, la pollution de l'eau de la rivière par les latrines informelles représente un réel danger pour la population.
Chez nous, en Centrafrique, et plus particulièrement dans le 6e arrondissement, il n'y a pas d'assainissement collectif. Et lorsqu'il n'y a pas d'assainissement collectif, on a ce qu'on appelle des assainissements individuels. Et l'assainissement individuel n'est pas réglementé non plus. Donc, on a le risque de contamination des déchets avec les nappes phréatiques, mais avec les puits dans lesquels la population prend de l'eau pour pouvoir satisfaire ses besoins. Donc ce risque de maladie est très élevé. Le risque de paludisme est toujours là. C'est une donne permanente au niveau du 6e arrondissement. Maintenant, il faut qu'on cherche des solutions pour sortir de cette situation.
La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles intempéries.
Cette semaine, dans Washington Forum, zoom sur la jeunesse congolaise, ses défis, ses engagements, ses rêves pour l'avenir. C'est en spécial Washington Forum que nous vous proposons une émission réalisée à Kinshasa avec notre partenaire B1, présentée par Abdourahmane Dia et Julie Sefou. L'emploi des jeunes, l'accès à une éducation de qualité pour tous, la mobilisation pour des causes citoyennes, quel message pour les nouvelles autorités congolaises? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités réécouter ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.